Vous écoutez
RMC. Merci de démarrer votre journée avec RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La Gironde commence un peu à souffler. L'incendie est toujours stabilisé ce matin, ce qui rend les autorités optimistes. Nous serons en direct de Lesches-Cap-Ferret auprès des pompiers. Un afflux de migrants jamais vu depuis 5 ans dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière avec le Maroc. Plus de 1500 personnes arrivées illégalement ces derniers jours. Et puis Zinedine Zidane va-t-il faire cracher le site de la billetterie des matchs des Bleus? Les fans sont déjà prêts à prendre leurs billets pour les rencontres de début octobre au Stade de France.
En Gironde, les autorités commencent très prudemment à entrevoir le bout du tunnel.
La situation est stable ce matin. Le feu est contenu dans son périmètre, selon les dernières précisions de la préfecture. Les autorités hier affichaient pour la première fois depuis un peu plus d'une semaine leur optimisme. La moitié des habitants évacués sont désormais de retour chez eux, avec toujours de la prudence, hein, puisque le feu est encore actif. Au Porge, un groupe d'habitants organise des rondes jour et nuit pour surveiller des zones où le feu pourrait reprendre. Célestin Bougère.
À 30 mètres de sa maison, Thierry a déployé un simple tuyau.
Un tuyau d'arrosage, un petit tuyau.
De la fumée s'échappe encore du sol au contact de l'eau. Le bois tout autour est noir, complètement calciné. Un masque sur le visage, Thierry tente d'éteindre les points chauds encore nombreux.
Les pompiers sont passés, mais je refroidis encore parce que ça continue. Hein. Le combat avec cette terre-là, c'est sans fin parce que le feu est dessous en fait. On ne le voit pas là. Et il peut très bien se rallumer un peu plus loin.
Avec une quinzaine de personnes, il se relaie pour surveiller le secteur même la nuit.
On tourne et on se relève toutes les 1h30. On commence à 11h le soir et jusqu'à 8h le matin.
À ses côtés, Maxime, lui, ne vit pas au Porge, mais il a posé des congés pour aider des amis qui habitent ici.
On appelle les pompiers quand il y a un gros départ qu'on n'arrive pas à gérer. Quand ils sont pas là, on fait des pare-feux pour protéger les habitations, les lotissements.
Cette fois-là, les pompiers aident le groupe à noyer la zone. Les amis s'accordent une petite pause à la salle des fêtes du village. Sur le chemin, Maxime craque en voyant sa région méconnaissable.
On la verra pas comme on l'a connue, quoi. Ça nous prend au trip, quoi. On peut pas le cacher. Je pense que vous demandez à tous les gens qui sont là, ils vous diront la même chose.
Le groupe de bénévoles s'attend à lutter pendant des semaines, voire des mois, avant d'éteindre complètement ce feu.
Célestin Bougère avec Marion Gauthier pour RMC. Des bénévoles pour épauler les 3300 pompiers toujours mobilisés sur place. Inès Zegloul, vous êtes l'une des envoyées spéciales d'RMC en Gironde en direct de Lesches-Cap-Ferret ce matin au poste de commandement des pompiers. Inès, la nuit a été calme, mais ils sont donc toujours sur le qui-vive, hein.
Et sur le parking, c'est le chassé-croisé encore ce matin entre ceux qui partent sur le front des flammes et ceux qui vont enfin pouvoir profiter d'un peu de repos, d'une tasse de café bien chaud, toujours engourdi après une nouvelle nuit sur le terrain. Certains toquent même à la porte de l'infirmerie de fortune qui est installée ici à la hâte, hein, dans le gymnase, à la recherche de soins médicaux ou d'un kiné par exemple. Je viens d'y croiser le lieutenant-colonel Casson qui s'apprête lui à grimper dans l'un de ses camions rouges. Il est médecin-pompier, c'est lui qui va au plus près des flammes pour prendre en charge ses collègues.
Le risque principal est la toxicité des fumées d'incendie avec des particules en suspension dans l'air et une qualité de l'air très altérée, encore plus bien évidemment au contact rapproché du feu. Nous sommes aussi très vigilants par rapport au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On a peur pour nos copains, pour nos collègues.
Alors, il recueille les dernières informations auprès des sapeurs de la nuit. Les relèves de la journée, elles, filent donc notamment en direction du Cap-Ferret, en direction de Lacanau. Ce sont les deux foyers actifs qui inquiètent ici les soldats du feu aujourd'hui. Nuit calme, donc, vous l'avez dit, mais prudence, me glisse l'un d'entre eux.
Inès Zegloul, en direct de Lesches-Cap-Ferret pour RMC. Et bonne nouvelle également dans les Landes, où l'incendie est maîtrisé. Tous les quartiers de Biscarrosse vont rouvrir à la circulation, annonce le préfet. Le feu a brûlé en une semaine 3600 hectares.
Et ce mois de juillet entre dans l'histoire. 3 des 15 plus gros incendies de ces 10 dernières années en Europe ont eu lieu ce mois-ci.
Favorisé par le dérèglement climatique, estiment des scientifiques du World Weather dans leur dernière analyse ce matin. Charlène Ville, les conditions climatiques en Europe sont plus favorables aux incendies.
À cause notamment du changement climatique d'origine humaine. Aujourd'hui en France, on a 2 fois plus de chances d'être touché par des incendies extrêmes et 6 fois plus en Espagne. Un incendie d'une telle intensité pourrait se produire tous les 20 ans dans l'Hexagone et tous les 6 ans dans la péninsule ibérique. C'est ce qui ressort de cette étude scientifique internationale. En cause, des hivers très pluvieux avec une végétation croissante et puis des étés très secs et très chauds. Résultat, les sols et la végétation sont donc asséchés, des combustibles plus facilement disponibles. Ce qui se passe actuellement en ce seul mois de juillet, 3 des 15 plus gros incendies en Europe en l'espace de 10 ans ont eu lieu. Figure au classement des pays les plus touchés, l'Espagne et puis maintenant la France avec les incendies en Gironde. 42 000 hectares ont brûlé. C'est la deuxième plus grande superficie dévastée dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Des dégâts matériels, des villes évacuées, puis des risques aussi pour la santé, notamment à cause des fumées et des particules fines.
Les précisions de Charlène Villemer. Merci Charlène. En raison des incendies en cours, Bison Futé appelle les automobilistes à éviter de se rendre dans le département ou de le traverser en Gironde pour laisser les routes libres pour les secours. C'est noir dans le sens des départs aujourd'hui dans le sud-ouest, rouge partout ailleurs et toute la France sera en noir demain pour ce week-end de chassé-croisée. La Fondation Vinci Autoroute dénonce ce matin des comportements alarmants. Après ce sondage Ipsos qu'elle publie, près d'un fumeur sur cinq admet jeter son mégot par la fenêtre en voiture, alors qu'une immense majorité de Français se disent conscients du risque que cela comporte pour les incendies. Constance Bostoen, comportement dangereux encore très répandu.
Sur l'aire d'autoroute de Saint-Arnoult, au sud de Paris, une mère de famille écrase sa cigarette sur le trottoir sous les yeux de Mélick et Thierry, garés quelques mètres plus loin.
Je trouve que les gens sont un peu mal éduqués comme ça, enfin, ça se fait pas quoi. Ça flambe un peu partout à cause des mégots et tout.
C'est dur d'inculquer ça aux gens. C'est une question, je pense, d'éducation de base.
Selon une étude de Vinci Autoroute, 17% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre de leur voiture. C'était le cas de Thierry il y a encore quelques années.
Mais probablement arrivé de jeter des mégots. On parle de ça il y a 30 ans, donc forcément la sensibilisation, elle était bien moindre qu'aujourd'hui, on en parlait beaucoup moins.
Malgré la prévention sur les risques d'incendie et malgré l'impact écologique catastrophique des mégots de cigarettes, Frédéric Patrouilleur pour Vinci Autoroute depuis 3 ans n'a constaté aucune évolution des comportements.
Là on est au bord d'une forêt, si vous regardez le bord du trottoir, il y a des mégots partout. Là on va avoir tout nettoyé et le lendemain il y a tout à refaire. C'est sans fin.
Jeter son mégot par terre est aujourd'hui puni par une amende de 135 euros. Évidemment, si ce geste est à l'origine d'un incendie, la sanction monte jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Un fumeur sur cinq qui jette encore son mégot par la fenêtre de la voiture. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous choque à l'heure où on vit ces méga feux? 3216 et le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et en plus du monde, sur la route ce week-end, une grève SNCF, grève surprise des conducteurs et des contrôleurs. 67 trains supprimés aujourd'hui en direction de la Normandie.
Et là aussi, hein, si ça vous fait réagir, vous composez le 3216. Je passerai un coup de fil juste après le journal à l'un des représentants syndicaux qui appellent à cette grève.
Et cela faisait depuis 5 ans que la ville de Ceuta n'avait pas connu ça. Plus de 1500 arrivées illégales de personnes migrantes ces derniers jours depuis le Maroc, dont cette enclave est frontalière. 9 personnes sont mortes hier en tentant d'arriver par le Maroc à la nage. Le président de la région parle d'une urgence humanitaire sociale absolue. Romain Cluzel, service politique d'RMC, ces arrivées très nombreuses depuis quelques jours font beaucoup réagir à droite et à l'extrême droite.
C'est le cas par exemple du président du RN, Jordan Bardella. Il s'alarme de cette arrivée illégale d'immigrants sur le sol européen et il réclame au gouvernement de renforcer en urgence les contrôles à la frontière avec l'Espagne. Une demande faite également par 2 élus de la droite LR, l'ancien Premier ministre Michel Barnier et l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, va beaucoup plus loin et évoque une invasion. Il est rejoint par d'autres responsables d'extrême droite en Europe, notamment en Espagne, en Allemagne et en Italie. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, dit même envisager la fermeture de l'espace Schengen entre son pays et l'Espagne. Une déclaration qui vire à la crise diplomatique. C'est de la démagogie, répond le gouvernement espagnol, qui convoque l'ambassadeur italien.
Romain Cluzel, la France gèle les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova après l'avoir visée par un arrêté d'expulsion. Cette chroniqueuse employée par les groupes Canal+ et Lagardère est accusée par le gouvernement de relayer la propagande du Kremlin. Une étape monumentale des mots de Donald Trump, l'accord pour le désarmement du Hamas. Le président américain affirme qu'Israël quitterait la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé. Des responsables du mouvement palestinien comptent sur les médiateurs pour obliger Israël à respecter les termes de cet accord.
Plus que quelques heures avant l'ouverture de la billetterie pour les prochains matchs des Bleus au Stade de France.
Et surtout les premiers dans ce stade mythique de Zinedine Zidane comme sélectionneur des Bleus. Ce sera début octobre. Les places sont mises en vente cet après-midi. Et Léo Piedaniel, les supporters sont déjà prêts.
Thibaut est un fervent supporter de l'équipe de France de football. La première de Zidane en France, il veut la vivre. Et pour ça, tous les moyens sont bons.
Je mets surtout en place d'abord le réseau avec mes amis. On est 2 ou 3 pour essayer d'avoir des places. Je vais essayer de me connecter, on va dire, 30 minutes avant.
Le match auquel il aimerait assister, c'est celui contre l'Italie. Tout comme Geoffrey.
Le lieu à être le 2 octobre, c'est au Stade de France. C'est le match à ne pas louper. On pourra en parler pendant des heures de cette confrontation France-Italie avec en plus Zidane.
Lui a déjà obtenu son sésame depuis la semaine dernière car il est membre des Bleus et Fier, club de supporters affilié à la FFF. Son président, Jean-Baptiste Montarnier, a pu partager le lien de la billetterie en avance et a constaté un engouement inédit pour l'équipe de France parmi sa centaine d'adhérents.
J'avais une cinquantaine de places allouées par la FFF qui sont parties très très vite. J'ai eu à peu près x3, x4 par rapport aux demandes classiques et je pense qu'il restera pas beaucoup de billets pour le grand public.
Et si vous voulez quand même tenter votre chance, sachez que la billetterie en ligne ouvre à 14h.
Et puis on apprend ce matin la mort à 66 ans d'une légende du foot italien, Franco Baresi, qui est mort c'est ce qu'annonce le Milan AC, dont il a été l'emblématique capitaine.
Clara Gabillet pour le journal sur RMC, il est 8h10 et on est en ligne avec Jérémy Tabary, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CGT Paris-Ouest Rive-Droite et vous allez suivre l'appel lancé par vos collègues de Sudrail, mouvement de grève inopiné sur le réseau normand de la SNCF, les TER nomades. Vous assumez cette grève sur le plus grand week-end de chasse et croisée de l'été et annoncé au dernier moment pour les vacanciers ?
Alors premièrement, je tiens à rappeler que c'est inopiné. Nous avons eu de nombreuses réunions avec la direction pour éviter d'en arriver à ce conflit. J'en veux pour preuve, nous avons eu des réunions le 16 juillet ainsi que le 6 juillet sur les différentes revendications des cheminots.
Mais c'est le moment qui interroge quand même. Vous choisissez le moment où les trains sont pleins, où les gens ont besoin de voyager.
Ah bah le moment interroge, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il faut savoir aussi que le feu gronde, en tout cas chez les conducteurs, depuis le début de l'année. Et effectivement, là, avec les épisodes de canicule que nous avons eu, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au niveau du mécontentement chez les cheminots. Et la direction emporte l'entière responsabilité concernant les revendications sur lesquelles...
Qu'est-ce que vous demandez très précisément ?
Nous demandons simplement déjà que les conducteurs, quand ils arrivent dans des foyers pour se reposer après une journée de service, puissent disposer par exemple de foyers avec de la climatisation ou de la ventilation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous avons certains foyers où des conducteurs doivent se reposer et qui ne disposent pas de climatisation. Donc nous demandons que la climatisation soit mise dans le cahier des charges par rapport à ça. Nous demandons aussi des effectifs. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous avons perdu environ 10% des effectifs au niveau de la conduite des trains. Ça empêche la direction de mettre en place des journées allégées.
Donc 67 trains supprimés rien qu'aujourd'hui, c'est les destinations de Paris vers Cherbourg, Rouen, Deauville, Trouville, Le Havre, ça va continuer jusqu'à dimanche, des trains qui étaient sans doute pleins. Vous n'auriez vraiment pas pu le faire à un autre moment ?
Bah, en fait, tout simplement, il faut savoir que ce sont les cheminots qui ont décidé et qui ont mis en avant leurs arguments le week-end.
En gros, il faut pénaliser au maximum les vacanciers, quoi. C'est votre logique.
Ce n'est pas que pour pénaliser les vacanciers. Par exemple, dans les revendications que nous avons montées, il y a aussi les conditions de transport au niveau des climatisations.
Non, mais là, la grève, vous allez pénaliser, vous cherchez la date qui pénalise le plus.
Ah, ce n'est pas nous qui avons décidé cette date. C'est à un moment ou à un autre, c'est arrivé. Nous avons déposé des demandes de concertation en adéquation aux revendications à l'instant T. Maintenant, effectivement, ça tombe ce week-end-là. Ça aurait pu très bien tomber le week-end, on va dire, dans deux semaines. C'est un concours de circonstances, mais en aucun cas...
Ça a été semaine, au moment où les gens, peut-être, voyagent moins en vacances. Merci, en tout cas, Jérémy Tabary. On a entendu vos messages à la direction de la SNCF et aux vacanciers qui seront très impactés. Donc, 67 trains supprimés rien qu'aujourd'hui, et ça dure jusqu'à dimanche. Jérémy Tabary, secrétaire général de la CGT Paris. Merci à vous. Dans un instant, autre sujet. Qui sont les pyromanes ? Le ministre de l'Intérieur annonce 275 interpellations depuis le début de l'été pour des départs de feu et dans 70% des cas, ce sont des actes criminels. Alors quels sont leurs profils ? Pourquoi mettre le feu ? Et puis est-ce que la justice est suffisamment sévère ? On se pose beaucoup de questions, on va essayer de comprendre avec notre invité qui est psychologue, qui est également sapeur-pompier et présidente de l'Association européenne des psychologues sapeurs-pompiers. Elle est avec nous dans un instant. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h17 et vous êtes bien sur RMC. RMC Story, l'été est loin d'être fini, on le sait, sur le front des incendies. Et on le sait, dans 9 cas sur 10, les départs de feu sont d'origine humaine. Il y a les négligences, les incivilités, mais il y a aussi beaucoup d'actes criminels. Bonjour Sabrina Ginot.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes psychologue et sapeur-pompier. D'ailleurs, vous présidez l'Association européenne des psychologues sapeurs-pompiers. On va essayer de comprendre avec vous qui sont ces pyromanes. D'abord, quand on dit pyromane, on parle de quoi ? On parle d'une pathologie psychiatrique, comme pyromane, comme toxicomane par exemple ?
Tout à fait. Quand on parle de pyromanie, pour faire simple, c'est comme si on confondait en fait la kleptomanie avec un acte de vol. Donc en effet, la pyromanie, c'est un trouble psychiatrique qu'il faut différencier en fait de l'acte criminel.
Donc, ça veut dire que ceux qui mettent le feu, qui sont des pyromanes, sont malades. Ils le font quoi ? Par plaisir ? Par addiction ? Par fascination ?
Ils le font parce qu'il y a un trouble du contrôle des impulsions, parce qu'il y a une forme de tension, d'excitation, en effet, à l'idée de passer à l'acte, une montée, en fait, pulsionnelle, et puis un plaisir avec un soulagement quand l'acte est mené. Il faut donc le différencier tout à fait des comportements incendiaires où il peut y avoir un motif externe.
Oui, c'est pas juste mettre le feu pour se venger, par exemple, c'est vraiment, là, on parle d'une pathologie. Alors, le ministre de l'Intérieur a annoncé 275 interpellations depuis le début de l'été pour des départs de feu, et dans 70%, ce sont des actes criminels. Ça paraît colossal. Qu'est-ce qu'on sait de leur profil ? On voit que parmi les arrêtés, il y a à la fois des SDF, un ado de 15 ans, un brancardier, aussi un étudiant en droit. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a tous les profils, tous les milieux ?
Il y a tous les profils, tous les milieux, puisque en effet, il y a une confusion générale entre pyromanie et comportement incendiaire. Si l'on part en effet des motifs externes, comme les motifs externes sont aussi fréquents que de nombre de personnes, nous trouverons dans la population des profils très différents. Quant à la pyromanie, c'est autre chose. On peut avoir des traits communs. Il s'agit en tout cas d'un diagnostic qu'un psychiatre peut poser après avoir écarté d'autres troubles de santé mentale, tels des personnalités antisociales ou des troubles des conduites de manière générale.
Mais alors, quelle est la part de ces pyromanes qui sont malades et la part des incendiaires qui ont juste à un moment envie de mettre le feu ?
Alors, les pyromanes correspondent à une population très faible, au final, parmi tous les comportements incendiaires. Et je comprends bien que il y a dans les médias ce besoin de raccourcir en parlant de pyromanie, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme si pour chaque acte de vol, on parlait de kleptomanie.
Donc ces personnes qui ont été arrêtées, tous ne sont pas des personnes que vous qualifiez de pyromanes, on l'a bien compris. Alors il y a aussi beaucoup de mineurs. Oui. Qu'est-ce qui enclenche ce mécanisme ? Qu'est-ce qui va pousser à mettre le feu ?
Chez les mineurs, plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses, puisqu'on parle d'hypothèses plutôt en sciences humaines. Les troubles des conduites, pourquoi pas. L'immaturité, le jeu, ce qu'on appelle aussi la crise ordalique, le fait de friser les limites.
Le côté vu à la télé.
Il peut y avoir aussi cette explication, tout à fait. Encore une fois, ça va être en tout cas des explications plutôt individuelles que collectives.
Et puis alors, je voulais qu'on s'arrête aussi sur le cas des pompiers, parce qu'on parle parfois de pompiers pyromanes, et c'est pas qu'un mythe, ça existe. On a vu que d'ailleurs un pompier a été arrêté après l'incendie de Fontainebleau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pompier pour en arriver à mettre le feu ?
Alors pour celui en effet qui a été arrêté à Fontainebleau, pour ce jeune homme, je suis pas sûre qu'il y ait encore eu un diagnostic psychiatrique si je ne m'abuse. Donc en effet il a commis un acte délictueux. Il va être pris en charge là-dessus, certainement vu par un psychiatre. Qu'est-ce qui peut le pousser ? Alors plein de raisons certainement qui lui appartiennent. On entend un peu de tout. Je ne le connais pas ce jeune homme, donc.
Mais de façon générale, quand on parle de pompiers pyromanes et de pompiers incendiaires, qu'est-ce qui fait qu'un pompier qui connaît les conséquences, pour le coup, d'un incendie mettre à mettre le feu ?
Soit il a un trouble psychiatrique et, en effet, il ne se rend pas compte des dangers causés pour la population et pour ses collègues. Il peut y avoir aussi des enjeux purement personnels. Il peut y avoir cette notion de fascination. Et là, en tout cas, on est réellement dans la pyromanie où c'est le plaisir d'allumer. Il peut y avoir aussi des raisons purement narcissiques de se sentir utile et puis d'apparaître comme un héros. Enfin,
éteindre son, finalement, de passer pour le héros qui vient ensuite éteindre l'incendie. Juste une dernière question. Les sanctions, aujourd'hui, elles ont été renforcées. Est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives ? Est-ce que ça compte ?
Alors, est-ce que ça compte ? Il faudra du temps. pour savoir si ça compte réellement. S'il s'agit en tout cas de pyromanie, il faut d'abord penser à la santé mentale. On sait à quel point il manque de moyens au niveau des psychiatres, donc il faut peut-être renforcer le système de santé mentale pour pouvoir se prémunir ou en tout cas accompagner quand l'acte est commis. On ne peut pas en tout cas condamner les gens avant qu'ils soient passés à l'acte, donc il faut malheureusement qu'il y ait une condamnation pour faire une obligation de soins. Ça, c'est le premier point.
Condamner, oui, la sanction, la peine de prison ne suffit pas, il faut aussi des soins psychiatriques. 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende, c'est la peine en cas d'incendie volontaire. Elle peut être alourdie quand il y a des victimes, et notamment quand il y a des morts. Et vous dites, il faut aussi évidemment des soins. Merci beaucoup d'avoir témoigné, de nous avoir éclairé un petit peu ce matin, Sabrina Ginot, sur le profil de ces incendiaires et de ces pyromanes. On a bien compris la distinction. Sabrina Ginot, psychologue et sapeur-pompier. Il est 8h23 sur RMC. Tout de suite, l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel, le Chypre et le Crédit Mutuel qui ne financera pas de candidats à l'élection présidentielle.
Oui, alors Matignon et des représentants des principales banques françaises avaient évoqué mi-juillet un accord dans lequel l'État pourrait couvrir une partie du risque de non-remboursement des crédits contractés par les partis pour les campagnes électorales. Mais il n'empêche, le Crédit Mutuel, Alliance Fédérale qui regroupe l'essentiel des caisses régionales du Crédit Mutuel et le réseau CIC, estime que les garanties apportées par l'État ne sont pas aujourd'hui suffisante pour financer des campagnes électorales. Alors, c'est pas tellement le fameux seuil des 5% qui pose problème aux banques, hein. Ce seuil en dessous duquel les frais de campagne ne sont pas remboursés. Non, ce qui préoccupe surtout nos banquiers, eh bien, c'est ce qu'ils appellent le vrai risque non assurable. Et c'est quoi? Bah, c'est l'invalidation des comptes de campagne qui peut toucher même les candidats de premier plan, puisque s'il y a invalidation des comptes de campagne, il n'y a plus la contribution de l'État. Et on pense évidemment à ce qui était arrivé à Nicolas Sarkozy en 2012.
Est-ce que ça va donc devenir de plus en plus compliqué de financer les campagnes électorales pour les partis politiques?
Oui, c'est probable, parce que les banques vont être de plus en plus réticentes. Il y a les contraintes prudentielles qui encadrent les risques que peuvent prendre les banques, et ces contraintes sont de plus en plus strictes. Il y a le risque réputationnel, lui aussi, qui est de plus en plus grand. Vous savez que déjà, les banques qui financent, par exemple, des activités trop tournées vers les hydrocarbures, paf, bah, elles se font sanctionner par des boycotts, etc. Donc là, elles pourraient, en fonction des candidats qu'elles financent, subir aussi des boycotts. Ces campagnes, elles coûtent de plus en plus cher, et les partis sont moins solides financièrement qu'ils ne l'étaient avant. Alors, c'est un danger pour la démocratie, parce que la frilosité des banques favorisera les partis ou les candidats les plus riches, encouragera les financements les plus obscurs ou venus de l'étranger. Le risque n'est pas que les banques choisissent les candidats, le risque c'est qu'elles cessent totalement de vouloir financer la démocratie. Et si la collectivité considère que le pluralisme est un bien public, il est logique que l'État en garantisse une partie du coût et du risque, un peu mieux qu'il ne le fait aujourd'hui.
D'où cette idée de banque de la démocratie qui avait été dans le débat pour que tous les partis puissent se financer, mais qui n'a jamais vu le jour. Un mot des chiffres des carburants, comme tous les matins.
Alors, stable, les carburants, hein, le gazole toujours à 2,21 € le litre, le sans-plomb 95 à 2,02 €. Et puis, on constate une légère détente sur les prix du pétrole et du gaz. Le pétrole est redescendu à 84 $ le baril, hein. Il y a une dizaine de jours, on était à 100. Et le gaz, là aussi, 57 € le mégawattheure, ça baisse un peu.
On surveille bien sûr tous ces prix au quotidien. Merci beaucoup Emmanuel Le Chip, 8h26. Tout de suite, on vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche.
Hier, Arnaud, c'était le bac philo.
Alors, les sujets, vous avez vu les sujets? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Bah oui. C'est même mieux. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il y a aussi la technique peut-elle être mauvaise? Alors, j'ai quelques ex qui m'ont reproché ça, mais je trouve que c'était très exagéré. Mais c'est compliqué, la philo. Aujourd'hui, en plus, les gamins, ils sont beaucoup sur TikTok. J'ai des parents d'amis qui sont désespérés. C'est pas là qu'on apprend la philo, quoi. T'as pas Jérém Star qui reçoit des philosophes dans son bain. Salut les chouchous. Alors, aujourd'hui, le sujet du bac. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Et c'est vrai, moi, ça m'arrive de paroler, mais parce que je suis pipelette et tout, je parole, je suis Dalida. Et pour en parler, je suis avec Bernard-Henri Vély, qui est dans mon bain. Bonjour BHV. Non, BHL. Pardon. En tout cas, j'adore votre chemise, hein. Elle est toute blanche et tout. Ça te voit que vous êtes marié avec une lessive. C'est Ariel. Alors, vous êtes philosopheur. Fist? Non, ça ira. Donc, philosophiste, donc, et votre préféré, c'est...
Ah non, pas fist.
C'est le grand-père de N'Golo Kanté, c'est Emmanuel Kanté. Non, Kant ! Kant ! Et mon philosophe préféré, c'est Nietzsche. Vous n'avez pas lu mes livres ? Non, je ne les ai pas lus, mais comme tout le monde en fait. Là, pour le coup, je suis au niveau des autres. Alors Nietzsche, j'ai révisé, c'est celui qui a écrit « Ainsi parlait Zaya tout ça ». Et il explique comment elle parlait Zaya, tout ça, comment elle a fait Sori Berry, tout ça. C'est là qu'on voit que la parole, c'est important. Vous voyez, il y a encore un peu de taf quoi en philo.
Arnaud Demange à retrouver quand vous voulez sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La situation s'améliore sur le front de l'incendie en Gironde. Le feu est stabilisé depuis 4 jours. 84 000 habitants ont pu retrouver hier leur domicile. RMC est allé à leur rencontre hier à Saint-Jean-d'Illac. Donald Trump annonce un accord historique sur le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Étape monumentale, selon lui, dans la deuxième phase du plan de paix. Et pas question pour la FIFA de faire marche arrière. L'instance mondiale du foot confirme son projet d'ouverture aux investisseurs privés. L'UEFA, elle, entame un bras de fer.
Et ce matin, l'accalmie se confirme en Gironde.
La nuit a été calme, météo favorable, incendie toujours stabilisé. 84 000 habitants ont pu regagner leur domicile hier. C'est le cas, Pierre Bourgès, des habitants que vous avez rencontrés à Saint-Jean-d'Illac.
À peine de retour chez lui, François attrape la cage installée à l'arrière de sa voiture.
T'es chez toi, là. Allez.
Il libère son chat avec qui il a évacué le week-end dernier.
Ça fait bien. Là, on n'en pouvait plus. Là. Dès qu'on a vu, on s'est dit on part. On était entre dans la famille, hein, mais quand c'est pas des prévus, c'est beaucoup plus long le temps.
Immense soulagement également chez Sophie. Après 5 jours hors de chez elle, et la pression retombe.
Puis là, je repleure parce que c'est la joie de revenir en fait. Là, je vais être contente de faire du ménage pendant une semaine. J'en ai rien à faire. Je vais tout remettre à plat et puis voilà. Et puis on va. On va essayer de reprendre notre petit train-train.
C'était traumatisant, admet celle qui a eu peur de perdre sa maison dans les flammes. À Saint-Jean-d'Illac, la vie tente de reprendre. Elisabeth sort de chez le marchand de journaux. Elle a encore du mal à y croire.
Ça fait du bien de rentrer, mais on sait qu'on est sous la sellette. On sait que ça peut redémarrer à tout moment. Quoi.
Face à un feu toujours actif, elle a peur d'être à nouveau évacuée.
J'ai dormi dans la voiture avec mon chat. Les hôtels n'acceptaient pas les animaux. C'est horrible. Mentalement, c'est hyper dur. Quoi.
Dans le coffre de sa voiture, un sac avec des affaires au cas où il faudrait encore évacuer.
Et on continue de faire vivre la solidarité sur RMC. Standard ouvert jusqu'à midi encore ce matin. Il y a notamment les professionnels du tourisme qui espèrent reprendre leur activité au plus vite et qui craignent que de s'effondrer en cette saison touristique et qui lancent un appel. Venez en Gironde. Alors, est-ce que vous seriez prêt à aller en vacances en Gironde? Est-ce que vous avez conservé votre réservation pour le mois d'août? Ou est-ce que vous êtes prêt à y aller dans les années qui viennent pour soutenir les professionnels du tourisme? On vous attend au 32-16, on en parlera juste après le journal avec mon invité.
Autre victime de ces incendies, les animaux sauvages. Certains ont été pris dans les flammes et ont dû fuir la forêt. Notre envoyé spécial RMC, Inès Zegloul, a rencontré des bénévoles qui se mobilisent pour les sauver au parc animalier à Landiras, en Gironde.
Oui, c'est Patrick.
Dans l'allée poussiéreuse de son refuge, le téléphone toujours collé à l'oreille.
T'as des nouvelles pour le chevreuil que je t'ai dit là ?
Une bénévole lui dit que les pompiers ont localisé un animal sur le bord de la route. Patrick nous emmène voir ce qu'il a déjà recueilli.
Il faut qu'on passe par là. On l'a mis là-dedans pour qu'il soit tranquille. C'est un animal qui a marché sur des braises en fait. Hein. Et là, il est tranquille, tu vois. Les pattes sont bien cramées en fait. Hein.
Là, il souffre pas.
Je pense qu'il souffre quand il se lève. On va dire que celui-là, il est en sursis, malheureusement. Tu pars avec qui? Avec elle, c'est bon?
Oui.
C'est un peu le bouillonnement, on va dire. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Cette bénévole, elle nous vient quand même.
De Calais. Donc, j'ai fait la route toute la nuit pour les protéger, pour les soigner, pour leur vivre en aide. Là, le feu a enlevé leur maison et c'est tellement triste. Le téléphone, encore, et à la cohésion succède la stupeur.
Donc, je m'envoie un message avec la photo, donc la chevrette, elle est décédée. Donc.
C'est la bête que vous deviez peut-être recevoir.
C'est le petit chevreuil qu'on a été avisé par les pompiers. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter à ça, parce qu'il y en aura encore plein d'autres, de moins.
Et l'impuissance.
Voilà, malheureusement.
Une minute de silence sera observée devant les casernes en Gironde ce matin à 9h30 pour rendre hommage aux pompiers décédés. L'incendie dans l'élan lui est maîtrisé. Les quartiers évacués vont pouvoir rouvrir. La circulation va également être rétablie, annonce la préfecture.
RMC 8h34 et cette avancée dans la deuxième phase du plan de paix à Gaza.
Un accord a été trouvé sur le désarmement du Hamas. L'annonce a été faite cette nuit par Donald Trump qui parle d'une étape monumental, un accord historique. Et Caroline Renaud, vous êtes en direct ce matin avec nous. Cet accord prévoit le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza en échange du désarmement du Hamas.
Oui, selon l'accord, seul le Comité national pour l'administration de Gaza pourra détenir, stocker ou contrôler des armes dans l'enclave palestinienne. Toutes celles du Hamas devront donc être remises à cette entité créée par le Conseil de paix de Donald Trump. De son côté, Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement. Ses forces devraient se retirer du territoire à mesure que le Hamas rendra ses fusils et ses lance-roquettes. Prochaine étape, discuter des modalités de mise en œuvre et convenir d'un calendrier. Étape qui prendra une quinzaine de jours, précise l'équipe de négociation du Hamas. Puis une force internationale de stabilisation se chargera d'encadrer la transition politique. Elle collaborera directement avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza.
Caroline Renaud, le gouvernement gèle les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova. Pour 6 mois, la journaliste est accusée d'être la voix du Kremlin, notamment sur CNews. Une annonce qui intervient quelques jours après un arrêté ministériel d'expulsion. L'Espagne, confrontée à l'arrivée massive de migrants. Des images impressionnantes où l'on voit plusieurs centaines de personnes entrer illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le nord du Maroc. 9 d'entre eux ont perdu la vie. Le président de cette ville autonome a demandé au gouvernement de déclarer l'état d'urgence nationale.
Et puis cette grève surprise à la SNCF annoncée au tout dernier moment pour les vacanciers et travailleurs.
Les cheminots lancent aujourd'hui ce mouvement de protestation. Conséquence, le trafic est perturbé entre Paris et la Normandie. Objectif, dénoncer leurs conditions de travail lors des épisodes de canicule. Jérémy Tabary, secrétaire général du syndicat CGT Paris-Ouest, invité d'Apolline Matin.
Nous avons eu de nombreuses réunions avec la direction pour éviter d'en arriver à ce conflit. Le feu gronde, en tout cas, chez les conducteurs depuis le début de l'année. Et effectivement, là, avec les épisodes de canicule que nous avons eu, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au niveau du mécontentement chez les cheminots. Et la direction emporte l'entière responsabilité. Ce n'est pas que pour pénaliser les vacanciers. Et à un moment ou à un autre, c'est arrivé. Nous avons déposé des demandes de concertation. Ça a pu très bien tomber le week-end, on va dire, dans 2 semaines. C'est un concours de circonstances.
Et du monde sur les routes aujourd'hui sera rouge dans le sens des départs sur une grande partie du pays, noir sur le quart sud-ouest, demain noir sur toute la France.
Il est 8h37 et la FIFA campe sur ses positions.
Pas question de renoncer à son plan d'ouverture aux investisseurs privés malgré les critiques. Et Pierre Thévenet, l'UEFA lance donc un bras de fer.
Oui, si l'initiative du patron du football mondial va au bout, les pays membres de l'UEFA ne participeront pas aux compétitions organisées par la FIFA, annonce faite dans un communiqué hier. Ces pays, dont la France, rejettent sans équivoque cette proposition de privatisation des grandes compétitions de football mondial. Un projet qui doit rapporter gros à la FIFA. Gianni Infantino, son président, cherche donc l'adhésion des fédérations. Il ne la trouvera pas du côté de l'Europe, qui refuse ce modèle. La Coupe du Monde appartient au football, il en sera toujours ainsi, peut-on lire dans la déclaration. Et tant que l'Europe aura voix, elle ne sera jamais à vendre. L'UEFA ne sera pas seule dans ce combat. La CONCACAF, qui regroupe les fédérations de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a également rejeté en bloc la proposition.
Et la disparition de la légende du foot Franco Baresi, l'international italien, est décédé à l'âge de 66 ans, annonce ce matin l'AC Milan. L'ancien défenseur finaliste du Mondial 94, pilier du Grand Milan dans les années 80, a remporté lors de sa carrière 3 Champions League et 6 titres de champion d'Italie.
Le quintet aujourd'hui, c'est à Cabourg à 20h15.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori le 3, son outsider le 14.
C'était le journal de Clément Gouis sur RMC. Il est 8h38. À suivre, le choix de la rédaction ce matin aux côtés d'un maire en première ligne en Gironde. Nous retournons au Porge, cette commune où 20% des habitations sont en cendres et où nous avons accompagné pour une journée le maire Martial Zaninetti sur le pont jour et nuit depuis maintenant plus d'une semaine. Et puis l'appel lancé aux touristes, je vous le disais, l'appel des professionnels du secteur, venez en Gironde, ne nous abandonnez pas. Appel lancé par le maire de Bordeaux, par les syndicats du secteur touristique avec une campagne de pub. On sera avec Franck Chaumès, le président de l'UEMIH, qui lance cet appel à la solidarité des vacanciers. A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h42 sur RMC. Et c'est l'heure du choix de la rédaction ce matin aux côtés d'un maire en première ligne en Gironde et au milieu d'une commune en cendres, le village du Porge, presque 20% des habitations parties en fumée et un maire sur le pont jour et nuit depuis une semaine maintenant. Nous l'avons accompagné et sa journée commence à la salle des fêtes, le point de rendez-vous des élus, des pompiers, de tous ceux qui veulent apporter leur aide. Reportage RMC, Marion Gauthier.
Ok, d'accord.
Commencez avec un café et le téléphone à l'oreille.
À tout à l'heure.
Vous êtes levé depuis quelle heure?
Depuis 5 heures.
Ses lunettes sur le bout du nez, son gilet bleu clair floqué mer, Martial Zaninetti enchaîne les points météo et les cellules de crise.
Alors, notre information, cette nuit, des gens ont été interpellés qui viennent cambrioler les maisons. Et nous avons également interpellé cette nuit des pyromanes qui continuent à rallumer des feux. Ça me dégoûte.
Un conseiller municipal passe, plus d'une semaine déjà que les flammes ont encerclé le village.
Toujours du plus, des choses qui sont arrivées en plus.
Ouais. Il montre une carte scotchée à la fenêtre.
Vous voyez, les points rouges sont des munitions. Des obus qui étaient enterrés depuis la dernière guerre, qui ont explosé quand le feu est passé dessus.
Un des problèmes qu'on n'aurait jamais imaginé.
Puis le maire sort vers la salle des fêtes, transformée en centre d'accueil et de logistique.
Plusieurs fois par jour, on fait le tour pour donner un petit peu de baume au cœur à l'ensemble des équipes.
Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour.
C'est l'adjointe à la culture. Maintenant, elle jointe à l'alimentation.
Au ravitaillement, à l'alimentation, voilà. Ça fait une semaine que je suis là, parce que je ne peux pas aller chez moi.
Vous dormez où, du coup ?
Chez moi, en partie.
Chez moi. Chez des potes, des fois sur des matelas, voilà. Pour moi, c'était très important d'être là et de soutenir tous les administrés.
Un énième appel pour des purificateurs d'air.
Aujourd'hui, c'est la problématique des intoxications au monoxyde de carbone qui sont le plus prégnant, puisque on ne s'en rend pas compte. On peut avoir des problématiques respiratoires et pulmonaires d'ici 2-3 mois.
Puis il croise une adjointe qui s'affaire les yeux humides.
J'ai une séance de psy à 10h, après la réunion, à 10h30. Okay. J'y retourne parce que je craque. C'est trop dur.
Elle se mord les lèvres et s'en va.
Ça me peine et... Ça rajoute de la douleur, mais je dois pas m'écrouler.
Des gestes de soutien, des mains sur l'épaule, une poignée de main aux pompiers.
Sans vous, j'y arriverai pas.
Tous ensemble, c'est ça.
Jean-Raymond est venu des Deux-Sèvres.
J'ai vu avec la commune, là, ils vont m'héberger la semaine prochaine et je reviens en civil pour les aider toute la semaine prochaine. Donc c'est un pompier d'ici qui va m'héberger.
Sur vos congés ?
Sur mes congés, oui. Bah oui, il faut aider les gens qui ont besoin.
Et si certains redoutent le retour des habitants dans les allées noircies, les maisons éventrées.
J'espère qu'ils vont pouvoir revenir assez rapidement et qu'on puisse les accueillir. On sera à leur côté. Mais ça va être des épreuves humaines et psychologiques à surmonter.
Il faudra un accompagnement psychologique, mais la solidarité s'organise encore, souligne une élue. Des dons de nourriture, de meubles parviennent déjà aux Porges.
Reportage RMC en Gironde, signé Marion Gauthier, l'une de nos envoyées spéciales sur place. Et cette solidarité, on l'entend depuis plusieurs jours maintenant. Et on va continuer de l'entendre jusqu'à midi, standard ouvert sur RMC encore ce matin. On est justement au 32-16 avec Fabrice. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le coin parce que vous nous appelez des Landes. Et je vois que vous êtes vous-même forestier. Vous vouliez réagir à cette pétition qui est lancée pour interdire la chasse le temps que la biodiversité reprenne ses droits, que les animaux puissent à nouveau se développer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, tout à fait. Déjà, je voudrais intervenir contre M. Bougrain-Dubourg qui est le premier à nous donner des leçons de morale. Mais quand il y avait au plus fort de l'incendie, M. Bougrain-Dubourg et ses copains de la LPO et d'autres associations étaient complètement absents. Les seules personnes qui étaient présentes sur le feu, c'était bien sûr les pompiers, énormément d'agriculteurs qui ont participé à freiner ce feu et beaucoup de chasseurs qui sont venus et qui ont servi des centaines de repas aux pompiers et aux volontaires.
On a vu aussi les associations de défense des animaux s'occuper des chevreuils blessés, etc.
Ça,
quand même.
Ça c'est bien, mais c'est après le feu. Je vous parle pendant le feu. On n'a pas vu un seul écologiste amener une bouteille d'eau aux pompiers ou aux agriculteurs qui, eux, luttaient contre le feu.
Et vous trouvez que c'est une forme de leçon de morale quand on dit, quand Alain Bougrain-Dubourg dit il va falloir du temps pour que la nature se régénère et que pendant cette période, il paraît logique de ne pas aller chasser les animaux ?
Oui, mais ça, on n'a pas besoin de M. Bougrain-Dubourg pour nous dire ça. Nous, on est des chasseurs et des forestiers, on est sur le terrain tous les jours. On n'est pas comme M. Bougrain-Dubourg qui va sur le
Donc
terrain.
Donc ça vous paraît, en réalité, ça vous paraît normal ? Il n'y aura pas de chasse ?
Mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'on ne peut pas chasser sur les terrains brûlés. Mmh. Déjà, les animaux ne sont plus là. Il n'y a plus rien à y faire.
Et vous dites, mais il n'y a pas besoin de pétition pour vous le rappeler, quoi. C'est ça que, vous vouliez dire ce matin.
Exactement. Et j'aimerais que les gens qui ont signé cette pétition viennent nous aider sur le terrain. Ça serait pas mal.
Merci pour votre témoignage, Fabrice. Le débat continue. Vous nous appelez tous au 3216. Vous envoyez vos messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Standard ouvert jusqu'à midi avec Rémi Barré et Julie Brault qui vont prendre la suite à partir de 9h. Dans un instant, l'appel aux touristes. Venez en Gironde. L'appel du maire de Bordeaux et des professionnels qui demandent un geste de solidarité. Venez sauver les professionnels sur place. On est avec l'UMIH, le syndicat des hôteliers restaurateurs. Dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49 sur RMC et RMC Story. Tiens, écoutez ce message qui a été posté sur les réseaux sociaux par le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave. Alors, on n'a pas ce message, c'est dommage. Thomas Cazenave qui disait une chose très simple, venez à Bordeaux et venez en Gironde. C'est cet appel, bah, écoutez-le, on l'a.
Cet été, venez à Bordeaux, venez en Gironde. Si vous voulez soutenir les commerçants, les artisans, les hôteliers, les restaurateurs, venez.
Bonjour Franck Chaumès. Est-ce que vous êtes avec nous, Franck Chaumès, président de l'UMIH Gironde?
Oui, tout à fait. Oui.
Bienvenue à vous. Vous êtes donc le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Vous aussi, vous lancez cet appel aux touristes, même une campagne de pub que vous allez lancer avec ce slogan « Ne nous abandonnez pas » dans plusieurs langues, hein, y compris pour des touristes étrangers. C'est quoi le message? C'est venir en Gironde, ça devient un acte militant, un acte de solidarité?
Oui, ben vous savez, aujourd'hui, avec ce que l'on subit économiquement, il était une obligation pour nous d'aller vite parce que malheureusement, avant de mettre en place des campagnes, que ça soit par Atout France ou les offices de tourisme, c'est souvent un peu long. Parce qu'il y a toujours des paramètres importants pour eux. Nous, on a fait notre campagne de communication. On envoie un communiqué de presse dans la journée et on va essayer d'avoir les réseaux au maximum à l'étranger, bien évidemment, et sur toute la France pour venir, comme l'a dit notre maire de Bordeaux, de venir en Gironde, car la Gironde, elle est assez diversifiée. Il y a des territoires magnifiques et il n'y a pas que les territoires qui ont malheureusement brûlé. Mmh. Il y a le Médoc, il y a le Saint-Émilion, il y a le Sauternay, il y a Bordeaux, il y a sa métropole. Il y a tout un tas de diversité. Donc aujourd'hui, il y a urgence. Aujourd'hui, nous sommes obligés de communiquer. C'est ce qu'on a fait depuis.
Et c'est un peu la riposte au propos de la préfète qui était très mal passée chez les professionnels du tourisme lorsqu'elle avait dit ne venez pas dans la zone pendant l'incendie, mais c'était au plus fort de l'incendie.
Non, mais d'abord, moi, je vais pas taper sur la préfète parce que je crois que, à son crédit, elle a aucune victime humaine. Donc retenons ça déjà. Soyons des bons citoyens. On remercie bien évidemment tous les pompiers, les bénévoles, les agriculteurs, mais remercions aussi les hommes d'État, les maires de chaque commune qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont à leur crédit aucune victime. C'est ça qu'il faut retenir.
Donc on met de côté cette polémique. Alors nous, on a demandé à nos auditeurs depuis ce matin s'ils étaient prêts à venir en vacances en Gironde dans les semaines qui viennent ou dans les années qui viennent. On a des messages sur le WhatsApp RMC. Victor.
Et on a d'abord Joël, départ prévu pour Arcachon dans une dizaine de jours et hors de question d'annuler, c'est une question de solidarité, nous ne les abandonnons pas. On a aussi Muriel qui nous dit réservation pour 15 jours faite dans un camping de Lacanau. Ça devait débuter demain mais j'ai reçu un mail hier qui annule ma réservation pour mes vacances. Moi je veux bien venir mais j'aimerais bien savoir où.
Ouais. Franck Chaumès, quelle est la situation à date là? Est-ce qu'il y a des campings qui vont pouvoir rouvrir parmi ceux qui étaient fermés dans la zone de l'incendie?
Ben on l'espère. Bon, il y a sur les 10 campings qu'il y a sur la presqu'île, seulement 3 ont je pense littéralement brûlé, mais on
ça,
attend
c'est
encore.
Au Cap Ferret. Ouais. Voilà, ça c'est toujours fermé. Cap Ferret pour
après,
le coup.
Après tout le reste sur le bassin d'Arcachon de l'autre côté, il y a des campings de toute la comment ça s'appelle. Le Médoc, il y a des campings. Vous allez à Montalivet, il y a des campings. Donc j'invite, si la personne veut être solidaire avec nous, eh bien, d'essayer de voir un camping qui peut l'héberger. Et bien évidemment que je la remercie parce que c'est ce message qu'il faut laisser passer. On a besoin de vous.
On a besoin de vous. Venez. Et il y a un certain nombre de structures qui sont ouvertes. Vous êtes en contact au quotidien avec les professionnels du tourisme du coin. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'annulations, y compris en dehors de la zone de l'incendie?
Oui, bien sûr, ils ont à peu près 50% d'annulation. Économiquement, bien évidemment, les zones touchées, c'est 100% de pertes, sachant que 80% du chiffre d'affaires est fait entre le 14 juillet et la fin août. Donc, ça va être une saison bien évidemment catastrophique. Et puis, malheureusement, ça déborde sur les zones sinistrées. Ça veut dire que toutes les communes aux alentours, même nous à Bordeaux, nous sommes touchés. Nous avons près de 80% de baisse de réservation de fréquentation dans les restaurants. Donc j'ai envie de dire, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas, mais surtout
Les entreprises vont tenir. Il y a le chômage partiel, il y a quelques aides qui ont été annoncées par le gouvernement, les reports de charges, tout ça, ça va suffire à faire tenir votre secteur?
Non. On a pour l'instant, on a le chômage partiel, mais qui serait pris à 60%, et tout le reste, pour l'instant, est dans les décisions ministérielles. Nous nous battons, que ça soit la Chambre de commerce, que ça soit la Chambre des métiers, le MEDEF, la CPME, maintenant les entrepreneurs, l'UMI, la CGAD, tous ces gens-là luttent pour avoir, dirons-nous, les aides pour qu'on garde la tête.
Il vous faudra davantage, il vous faut de la trésorerie, là, c'est ça?
Ah ben, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, comment peut-on vivre avec 80% de son chiffre d'affaires de l'année en moins? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, ça va être effectivement un quoi qu'il en coûte, mais on ne va pas demander un quoi qu'il en coûte comme il y a eu pendant la Covid. C'est un quoi qu'il en coûte sur un mois et demi, c'est-à-dire du 22.
Et une aide très, très, très ponctuelle pour vous permettre de tenir le choc. Et ça commence par le retour des touristes, d'où cet appel que vous lancez. Donc venez en Gironde. Il y a encore des endroits où c'est ouvert et où il n'y a aucun souci, très loin de cet incendie dont on espère qu'il va être finalement fixé. On en est plus très, très loin chaque jour qui passe. Merci beaucoup, Franck Chaumès, patron de l'UMI à Gironde, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Et c'est l'heure de passer le relais à Rémi Barré et à Julie Brault. Bonjour à tous les deux. Le Standard reste ouvert jusqu'à midi.
Exactement. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. On vient de l'entendre, un peu d'optimisme. Allez, sur le front des incendies, le feu est maîtrisé dans les Landes. L'incendie ne progresse plus en Gironde, mais toujours des centaines, plusieurs milliers même de pompiers sur le terrain, des sinistrés qui ont tout perdu, des évacués qui attendent de pouvoir rentrer chez eux. Alors, nous continuons de bousculer nos programmes sur RMC, RMC Standard ouvert. Spécial incendie de 9h à midi. Vous continuez à témoigner de ce que vous vivez. Vous continuez à proposer votre aide, à nous dire ce dont vous avez besoin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi avec Julie Brault qui est à mes côtés, qui lira tous vos messages, vos propositions d'aide, notamment nos reporters sur le terrain, évidemment, RMC. Standard ouvert, spécial incendie, c'est le 3216. On attend tous vos appels et puis le WhatsApp, le 0612 424 424.
Vous restez bien sur RMC. Très belle journée et bon week-end.